Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous sommes autour de la mort du Christ, la passion du Christ, la rédemption qui se fait dans le sacrifice de la passion qui ont eu la résurrection du Christ. Et dans nos derniers échanges, nous avons évoqué des expressions qui peuvent prêter à confusion, qui sont mal prises. La toute dernière, c'était bouc émissaire, en disant que Jésus n'est pas le bouc émissaire, au sens où on l'entend dans le langage courant aujourd'hui, ni même réalisant ce qu'est le bouc émissaire dans l'Ancien Testament. Et puis, nous avions également évoqué cette expression « Dieu l'a fait pécher pour nous », en disant qu'il peut y avoir ambiguïté là-dessus. Dieu l'a fait pécher, P-E-C-H-E, ou pécher, P-E-C-H-E-R, enfin l'une et l'autre serait très, très ambigu, mais qu'on voit dans cette expression que Dieu s'est fait solidaire des hommes en permettant que Jésus soit le sacrifice par lequel le péché est remis. C'était ce qui, dans l'environnement de Jésus, était important. Et je vois que dans les articles 612, 613, il y a des expressions qui mériteraient peut-être aussi que nous prenions un peu de temps dessus. Dans l'article 612 du catéchisme, il est dit « En acceptant dans sa volonté humaine que la volonté du Père soit faite, il, Jésus, accepte sa mort en tant que rédemptrice pour porter lui-même nos fautes dans son corps sur le bois. » Porter lui-même nos fautes dans son corps sur le bois. Et si je prends le paragraphe d'après, il y a une autre expression qui mériterait que nous arrêtions dessus, je crois, à l'article 613. La mort du Christ est à la fois le sacrifice pascal qui accomplit la rédemption définitive des hommes par l'agneau qui porte le péché du monde et le sacrifice de la nouvelle alliance qui remet l'homme en communion avec Dieu, en le réconciliant avec lui par le sang répandu pour la multitude en rémission des péchés. Mais je note donc ces expressions « porter lui-même nos fautes dans son corps sur le bois » et « l'agneau qui porte le péché du monde », ce que l'on dit dans chaque célébration de l'Eucharistie d'ailleurs. Agneau de Dieu qui... Enfin, on ne dit pas qu'il porte, qu'il enlève les péchés du monde. En fait.
Alors, il faut bien comprendre qu'il y a dans le mot « péché », il y a plusieurs dimensions. Il y a la faute qui est une rupture d'amour, une rupture d'alliance, une rupture de communion avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et d'autre part, à chaque fois qu'il y a une faute, il y a quelque chose qui, d'une certaine manière, perturbe. Il y a des conséquences que cette faute a entraînées. Et cette faute a provoqué quelque chose qui a détruit un peu l'ensemble de l'harmonie, je dirais, de l'homme dans sa situation d'être créé par rapport à Dieu. Et il y a donc une nécessité à la fois de couvrir la faute et de réparer cette disharmonie qui s'est créée. Il faut une peine pour réparer l'harmonie et il faut en même temps quelque chose qui lave la peau, la faute. Et cette double dimension un peu complexe que l'on rencontre déjà dans l'Ancien Testament a été bien préparée par l'ensemble de la Première Alliance qui a exprimé la nécessité de faire des sacrifices d'expiation. C'est très net, par exemple, dans Exode 29, 36, il est dit « Chaque jour, et on le dit donc à Aaron, le grand prêtre, tu offriras un jeune taureau en sacrifice pour le péché, en expiation. » et cela est détaillé pour le grand jour des expiations, le jour dit de Yom Kippour dans l'Ancien Testament. C'est par exemple au chapitre 23 du Lévitique. Le Seigneur parla à Moïse et dit, le dixième jour de ce septième mois, c'est le jour des expiations. Il y aura pour vous une sainte assemblée, vous jeûnerez, vous offrirez donc des mets au Seigneur. Ce jour-là, vous ne ferez aucun travail, car c'est le jour des expiations où l'on accomplit sur vous le rite d'expiation devant le Seigneur votre Dieu. Donc on a préparé le peuple juif à la notion qu'il fallait expier le péché du côté de la faute et en même temps assumer la peine conséquente à la faute. Et il y a eu un moment prophétique tout à fait extraordinaire dans l'Ancien Testament qui pour nous est une référence tout à fait déterminante. C'est le fameux passage d'Isaïe 53. Mais déjà, on rencontre dans l'Ecclésiastique, qui est un texte un petit peu plus tardif, et qui nous dit que le Seigneur est sensible à cette possibilité de réparer, de lever la faute et de réparer la peine. Ce qui plaît au Seigneur, c'est qu'on se détourne du mal, c'est offrir un sacrifice expiatoire que de fuir l'injustice. Et donc déjà, l'homme qui se rectifie reprend déjà la bonne route et assume quelque chose. Or, le grand prophète Isaïe a vu qu'il y avait comme un messie qui allait venir, un surgeon qui grandit, qui est le surgeon du Seigneur et qui va porter sur lui eh bien, les conséquences de notre péché. Ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié, mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. C'est quand même impressionnant ce chapitre 53 d'Isaïe. Et un petit peu plus loin, il est ajouté, le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance, il offre sa vie en sacrifice expiatoire, voilà le mot qui apparaît là. Il verra une postérité, il prolongera ses jours. Et donc, voilà qu'il y a ce dessein de Dieu qui va faire reposer sur quelqu'un qui va être capable d'assumer la faute et d'assumer la peine. Or ça, il faut bien le reconnaître, aucun homme n'est capable de le faire. Il fallait que ce soit l'homme-Dieu qui le réalise, puisque satisfaire pour... en expiant, satisfaire, c'est très difficile, c'est arriver à rendre quelqu'un heureux de la situation, malgré le passé, malgré la faute, malgré tout ce qui a été de l'ordre de la rupture. Celui-là satisfait à proprement parler pour une offense, qui présente à celui qui l'a offensé quelque chose que celui-là aime ou plus, qu'il déteste l'offense passée. Et donc il faut faire quelque chose de plus grand, une chose qui dépasse. Dans la vie quotidienne, on le sait bien, quand on a fait une bêtise, eh bien, on va faire un geste de réparation, on va apporter un bouquet de fleurs, on va faire un cadeau, on va montrer qu'on ne reste pas sur le geste que l'on a fait. Et on sait bien dans les couples combien c'est important, ces petits gestes, ce baiser qui passe après une dispute, ce moment de réparation est ô combien important pour rétablir la communion. Satisfaire, c'est cela, c'est faire que l'amour passe devant. Et cela permet aussi à l'homme, d'une manière assez extraordinaire, de pouvoir s'associer lui-même à ce mouvement. Car, bien sûr, Jésus pouvait tout prendre sur lui, comme dit le prophète Isaïe, mais il a voulu, dans son grand amour, associer les hommes. Et c'est peut-être cela qui est le plus extraordinaire dans cette notion de réparation, d'expiation, de satisfaction, c'est qu'il donne à l'homme la possibilité de participer à ce que Jésus a vécu pour nous d'une manière surabondante et d'une manière définitive. Nous n'ajoutons rien à la croix, mais nous pouvons nous associer à lui et ainsi mieux comprendre qu'il s'est substitué par cette belle figure du serviteur souffrant en sacrifice expiatoire, nous donnant à nous-mêmes la possibilité de rentrer dans ce mouvement d'amour. Et pour nous, c'est vraiment là que se joue toute la sainteté que Dieu nous propose, que ce n'est pas seulement une sorte de chose légale qui serait comme un jugement, voyez, extrinsèque à l'homme, dans lequel on dirait ça y est, on te déclare libre, on te déclare lavé de tes péchés. C'est beaucoup plus, c'est proposer une voie d'amour pour rentrer dans le mouvement même du Christ qui s'est offert. Et nous avons donc sans cesse à reméditer ces mots, dans lesquels le mot satisfaction est peut-être le plus déterminant, parce que il nous montre que Dieu a voulu non pas nous faire un chèque en blanc en nous pardonnant, mais payer de sa personne. Et dans le mot satisfaction, il y a le mot rédemption, le mot réparation, le mot sacrifice. Et c'est cela qui est si beau dans cette expression globale, un peu métaphorique, de dire que Jésus a porté les péchés du monde. Il l'a fait pour nous entraîner à sa suite, parce qu'il est la tête de toute l'humanité, comme dira le numéro 616, et il fallait en quelque sorte guider l'humanité tout entière sur ce mouvement de réparation et d'expiation.
Merci, frère Édouard, pour ce premier décryptage.